Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Le gouvernement s'apprête à recevoir cette semaine patronats et partenaires sociaux pour négocier la future réforme des retraites. Une réforme qui s'annonce difficile pour le gouvernement. Plusieurs journées de mobilisation sont déjà prévues en septembre. Et parmi les propositions envisagées par l'exécutif, supprimer le fameux âge pivot de départ à la retraite, privilégier la durée de cotisation. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que cette mesure rendrait ou non le système plus équitable? Bonjour Hippolyte Delbis.
Bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes professeur à l'économie de Paris et directeur de recherche au CNRS, avec tout d'abord une question: qu'est-ce que l'âge pivot?
Alors l'âge pivot, c'est une préconisation du rapport Delevoye, et c'est un âge auquel on a sa retraite à taux plein. C'est-à-dire qu'il y a une formule qui va permettre de calculer la retraite selon la préconisation. Et à cet âge-là, qui serait de 64 ans, eh ben vous avez exactement la valeur qui est calculée par la formule.
Quel que soit le nombre d'années où vous avez travaillé auparavant.
Si vous avez une...
C'est là où ça se complique.
Voilà. Mais le principe, c'est que c'est l'âge qui définit ce qu'on va appeler une décote ou une surcote. C'est-à-dire que si vous partez avant, vous avez un petit peu moins que ce qui est calculé par la formule. Et si vous partez après, vous avez un peu plus que ce qui est calculé par la formule. Alors là, ce que vous évoquiez, c'est qu'il y a eu une petite polémique. Et il y en a toujours avec les âges de la retraite, hein, parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, en fait, la retraite. Il y a beaucoup d'éléments techniques.
Oui.
Mais l'âge de départ, ça, c'est quelque chose que tout le monde comprend. D'accord? Et donc, il y a eu une première polémique, vous voyez, au printemps, avec Agnès Buzyn, sur l'âge minimal de départ à la retraite. Et là, Vlan, cet été, repart sur une autre polémique, qui est l'âge pivot.
Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est que cet âge pivot, il est fixé à 64 ans. Mais l'âge moyen de départ à la retraite, il est aujourd'hui de 63,4 ans. Donc, ça veut dire finalement que les deux sont très voisins, a priori.
Voilà, mais comme vous le dites, c'est une moyenne. Et par définition, tout le monde ne part pas à la moyenne. Donc, je prends un petit exemple. Une personne qui a commencé à travailler à 21 ans, d'accord, s'il est né après 1973, dans le système actuel, il doit travailler 43 ans. D'accord. Donc, 43 plus 21, ça vous fait 64 ans. Donc, pour lui, qu'on lui fasse sa durée de cotisation comme ça l'est dans le système actuel, ou qu'on lui impose un âge pivot, ça revient au même.
D'accord. Ça change rien.
Ça change rien. Mais alors, supposez que cette personne ait commencé à travailler à 20 ans. Lui, il a fait ses 43 années, vous voyez, de cotisation, un an avant, à 63 ans. Donc si on lui dit, maintenant vous partez à 64 ans,
donc il va devoir patienter, travailler un an de plus.
Travailler un an de plus. Donc ça engendre une petite tension.
Mais
alors, lorsque Emmanuel Macron est intervenu en disant que lui préférait la dimension cotisation, il prend ça un petit peu en compte, voyez. Donc
alors,
on est plus sur un système du coup qui serait individualisé avec le parcours, voyez, de cotisation qui compte, non seulement les montants que les personnes vont abonder dans le système, hein, combien ils vont cotiser, mais aussi la durée de cotisation. On reste sur une dimension individuelle, alors que dans l'esprit peut-être dans les des préconisations, c'était d'avoir de continuer la simplification et de donner cet âge, si je puis dire, pivot, mais on pourrait dire cet âge totem. C'est, voilà, en fait, vous allez partir vers 64 ans.
Mais alors, pour complexifier le tout, Hippolyte Delbis, on se dit qu'aujourd'hui, avec le chômage, la complexité des carrières professionnelles, il est rare d'entrer dans la vie active à 20 ans, 21 ans, et d'en sortir à 64 ans en ayant eu une carrière linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Donc évidemment, il n'y a pas de carrière moyenne, ou il n'y a pas de carrière qui sont toutes pareilles. Et c'est un petit peu l'idée des préconisations, hein, parce qu'encore une fois, ce sont des préconisations, c'est pas une réforme qui est engagée. C'est de prendre en compte justement les différences, les différentes carrières. Alors dans les années de chômage, ou les années qui pourraient être de la maladie, seront en effet prises en compte. En tout cas,
qu'est-ce qui arrive, par exemple, pour les années de chômage?
Eh bien, on considérera qu'il y a une cotisation au système.
Et donc,
voilà.
Cela...
Parce que le chômage, vous voyez, plus fondamentalement, le chômage, c'est considéré comme étant une période d'activité, parce que vous recherchez un emploi. Donc, voilà, donc ça sera. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus fondamental qui fait que les carrières n'étant pas linéaires, ça veut dire que les gens peuvent passer d'un régime à l'autre. Voyez, et ce qui dans l'ancien système était extrêmement pénalisant, parce que vous acquériez des droits dans différents régimes, et au total vous pouviez finalement ne pas avoir le taux plein dans aucun des régimes et perdre à cette affaire. Ce qui est vraiment très impressionnant dans les réformes qui est proposée, c'est justement ces fusions de tous ces régimes en un seul, et du coup la personne voilà acquiert des droits dans le régime qui est proposé.
Et oui, parce que j'ai lu qu'il y avait 42 régimes existants. Comment on arrive à ce chiffre qui paraît complètement exorbitant, 42 régimes de retraite, Hippolyte Dalbis?
Alors ça, c'est très important, c'est que en 1945, lorsqu'on a fait les ordonnances sur la sécurité sociale, eh bien, on n'a pas voulu revenir sur les régimes qui préexistaient. D'accord, parce qu'il faut bien voir que le régime des fonctionnaires date de 1852, le régime des militaires est même antérieur, et puis avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait notamment les mineurs, les ouvriers de certaines grandes entreprises qui bénéficiaient d'un système de retraite.
Donc ils ont des conditions de retraite différentes.
C'est ça. C'est ce qu'on a appelé après les régimes spéciaux, hein, ou le régime des fonctionnaires, qui est un régime spécial, si je puis dire. En fait, c'était des régimes qui préexistaient aux ordonnances de 45.
Et là, l'idée, c'est de les supprimer?
Ah non, c'est de fusionner dans un seul et même régime.
Oui, donc de les supprimer, les régimes spéciaux.
Voilà. Voilà, en tout cas de faire converger, vous voyez, parce qu'il y a quelques cas qui sont très particuliers, typiquement les marins, les fonctionnaires de police,
etc. Alors justement,
etc.
C'est très compliqué, parce qu'il y a certaines professions que l'on choisit, notamment, pas uniquement bien entendu, mais notamment parce que on sait qu'on va avoir une retraite, par exemple à l'âge de 50 ans, 55 ans, je pense, notamment aux carrières militaires, ça va cesser?
Non, mais justement, tout ce qui est les carrières militaires ou les forces de police, etc., vont garder des régimes de départ à la retraite qui seront différents et qui seront ceux
donc
qui
en fait, on va supprimer les régimes spéciaux en les conservant.
Bah oui, mais néanmoins, bon, on fait un rapprochement fondamental, voyez, entre le régime des fonctionnaires et le régime le régime du privé.
Le système des retraites aujourd'hui, il est déficitaire, il perd à peu près 10 milliards d'euros. L'idée, c'est d'aller vers un équilibre. C'est impossible, Hippolyte Dalbis?
Ben non, c'est tout à fait possible, mais c'est pas l'objet de la réforme. L'objet de la réforme, c'est de créer un seul et unique système, d'accord ? Peut-être pour qu'il soit plus juste, ou pour que, selon la rhétorique, si je puis dire, du haut-commissaire ou du gouvernement ou du président Macron, pour que ce soit plus lisible et que les gens adhèrent, voyez, au système.
Donc l'idée, c'est pas de faire des économies, ou plus exactement, d'avoir un système qui tendrait vers l'équilibre.
Pas selon cette réforme. Bien sûr que c'est l'idée fondamentale et c'est l'idée importante pour les retraites, parce que un système qui accumule des déficits, c'est un système qui est potentiellement instable et qui peut disparaître. Et la vraie injustice intergénérationnelle, ce serait que certains, voyez, cotisent au système et ne bénéficient pas de retraite. Donc si vous accumulez des déficits, il y a potentiellement un souci. Néanmoins, les différentes réformes paramétriques qui ont été faites jusqu'à présent ont permis de rééquilibrer. On reste sur un système qui est toujours en déficit, mais l'enjeu principal, en effet, c'est cela.
Merci beaucoup. Hippolyte Dalbis, je rappelle que vous êtes professeur à l'économie de Paris et directeur de recherche au CNRS.